France Culture. Signe des temps. Marc Wetzmann.
Et bonjour à tous. Je dirais même bonjour et bonne année. Mort à quelques jours de son 60e anniversaire en 84 à Los Angeles, gavé d'alcool et de drogue et de barbiturique, Truman Capote est né voilà 100 ans, en 1924. Il reste pour nous surtout l'auteur de 200 froids, c'est-à-dire le créateur d'un genre littéraire qui a fait florès depuis, de John Didion à Emmanuel Carrère en France, et qui reste toujours aussi difficile à définir. Le fantôme de Truman Capote, de l'écrivain et journaliste argentine Leila Guerreiro, qui est une enquête et une mise en scène de l'enquête sur l'écriture de 200 sans froid, et aussi la réédition sous le titre « Quatre meurtres et un bal » en noir et blanc d'une partie de la correspondance de Truman Capote et de ses entretiens de 1960 à sa mort, tous les deux aux éditions Rivage, permettent de fêter ce centenaire de Capote en revenant aux origines de son invention et aux questions à la fois littéraires, personnelles et culturelles qui président à la naissance de ce genre ambigu qui s'est imposé depuis face aux médias comme l'une des voies les plus modernes et prometteuses de l'art romanesque pour appréhender la réalité. Au risque parfois, enfin à ses risques et périls en tout cas. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Delphine Valentin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éditrice de la littérature étrangère aux éditions Rivage, vous êtes traductrice du livre de Leila Guerreiro, Le fantôme de Truman Capote, dont on va parler. Simon Liberati, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancier, vous êtes journaliste, vous avez écrit beaucoup de livres, dont deux qui nous concernent directement, Les démons et La hyène du Capitole, dans lesquels on voit apparaître Truman Capote. Et le troisième volume qui se retirera dans deux ans, je crois, en 2026, sera en partie centré sur Truman Capote.
Sur sa mort.
Oui, enfin, sur sa mort.
Sur les mois qui ont précédé sa mort.
Et vous apparaissez aussi dans le documentaire visible sur Arte en ce moment, Six morts dans la nuit, documentaire de Frédéric Basse et de Julien Gorichon sur De sang-froid et sur l'écriture de sang-froid. Alors avant d'en venir à Truman Capote, quelques mots sur Leila Guerreiro, le fantôme de Truman Capote. Leila Guerreiro est une journaliste argentine, elle-même réputée pour ses œuvres de non-fiction. Elle a publié plusieurs livres, dont deux, je crois, chez vous, aux éditions Rivage, Delphine Valentin, L'autre guerre et Les suicidés du bout du monde.
Oui, alors elle est effectivement une figure très importante du journalisme narratif en Espagne, en Amérique latine. En France, elle est encore pas aussi connue, mais elle avait déjà publié une histoire simple chez Bourgois, je pense que c'était en 2017. Et moi, je l'ai lu il y a très longtemps, je pense en 2005-2008. J'avais lu Les suicidés du bout du monde. Et je venais de lire Svetlana Alexievitch, La supplication. Oui. Et j'ai vu une parenté que j'avais vraiment beaucoup aimée. Et j'ai vu une parenté entre ces deux façons de travailler, en particulier dans la façon de recueillir la parole des gens et d'arriver à rendre par l'oralité, à rendre une radiographie d'un lieu. Svetlana Alexievitch, c'était Tchernobyl, dans Les suicidés du bout du monde, qui est vraiment un livre qui est devenu vraiment un livre culte en Amérique latine et qui est un livre qui est au programme de toutes les écoles de journalisme. Elle va à Las Heras, c'est un tout petit village de Patagonie, pas la Patagonie touristique avec les baleines et les glaciers, mais la Patagonie désertique, balayée par le vent. Et en fait, elle a reçu un communiqué de presse d'une ONG qui parle d'une vague de suicides dans cette petite ville. Et elle se rend sur place plusieurs fois, longtemps, assez frais, pour essayer de comprendre, en interrogeant les proches des victimes, mais aussi toutes les personnes qui sont dans cette petite ville qui en fait est faite de bordels et d'églises, essayer de comprendre ce qui a poussé ces jeunes à suicider. Voilà, ça c'est
Et c'est le vent.
C'est le vent en particulier, effectivement, qui rend fou. Le vent et puis la crise économique et, l'abandon par le gouvernement argentin, parce que c'est un endroit d'extraction de pétrole. Et en fonction des fluctuations du prix du pétrole, et tout ça joue beaucoup sur les gens de cet endroit-là du monde.
Alors, dans Le fantôme de Truman Capote, elle vient sur la Costa Brava à Palamos, où Truman Capote a écrit une bonne partie de Sang-Froid, et elle essaye de reconstituer sa vie sur place alors que tout le monde est mort. Donc il y a quelque chose de déceptif dans l'entreprise elle-même. Et ça pose quelques questions, enfin ça fait écho à la question de fond qui est est-ce qu'on arrive capter quelque chose de la réalité en écrivant dessus, et c'est précisément ce que la démarche de Truman Capote. Simon Liberati, il est sur la Costa Brava quand il arrive là-bas, Truman Capote il n'est pas aussi isolé que Leila Guerriero ou que les derniers témoins le laissent entendre en fait.
Il est jamais très isolé, de toute façon. Alors, il avait l'habitude, en effet, de se mettre à l'écart, parce que sinon, à New York, c'était la ronde infernale entre les dîners et les soirées. Donc, il s'isolait, comme font des écrivains souvent, et là, il est parti mais il faut savoir que la Costa Brava, à l'époque, c'était juste avant le tourisme de masse qui a commencé au milieu des années 60, je crois, si ma mémoire est bonne, notamment français. Et donc, c'était encore un endroit assez élitiste, où les Américains avaient pas mal d'habitude, il y avait des gens, il y avait le film Pandora and the Flying Dutchman qui avait été tourné pas loin à Torre del, je sais plus le nom exactement, mais c'est tout près de Palamos. Donc c'était un endroit assez connu des Américains. Alors je crois que Leila Guerriero raconte assez bien que il est arrivé là par quelqu'un qui avait une maison, que moi personnellement j'avais jamais entendu parler de lui, qui est un auteur américain qu'on a oublié, je sais plus.
Oui, Robert Roy. En fait, elle dit c'est ce qui est, même ça peut faire partie de la légende aussi. En fait, elle comprend entre les lignes qu'on n'est même pas sûr que ce soit lui qui l'ait fait venir là.
On est sûr de rien.
Aussi
en fait.
Madeleine Carroll qui était là, qui était une de ses amies. Donc on est sûr de rien, et c'est ce qu'elle va vérifier sur place en effet. Pour venir dans l'œuvre de Leila Guerriero, c'est un petit peu particulier ce texte-là, parce que justement, je pense face au rien des faits qu'elle va chercher, elle est plus présente en tant que journaliste, donc le jeu est peut-être un petit peu plus présent, parce que finalement, cette quête inaboutie, la force, ou en tout cas, lui permet de s'interroger sur son travail, et ce que c'est que de travailler sur la réalité.
Elle trouve quand même, moi j'ai été épaté de voir qu'elle avait beaucoup de courage, elle trouve des témoins, elle trouve des gens qui ont connu Capote, qui sont certes un peu âgés, parfois pas toujours très fiable, mais enfin elle a quand même trouvé du matériel.
Oui, elle a trouvé des gens.
Hein, c'est frappant, c'est tout à son honneur, parce qu'a priori c'était mal parti.
Alors, c'est une enquêtrice acharnée.
Oui, elle a l'air. Elle ne le montre pas, ça, par contre, dans son livre.
Non,
alors,
non, elle ne le dit pas.
Elle ne montre pas l'effort.
Alors quand il arrive là, il y a déjà deux mondes. Truman Capote, il a déjà rencontré les deux criminels de sang-froid. Il aura déjà donné rendez-vous en prison. Je vais donner quelques éléments biographiques sur Capote pour qu'on resitue un peu les choses. Il est né donc à la Nouvelle-Orléans en 24. Sa mère sortait beaucoup. Elle était mariée, mais elle sortait énormément et elle laissait Leila Guerriero le raconte assez bien, résume les choses assez bien. Elle laissait le petit garçon enfermé dans les chambres d'hôtel où elle s'installe. Elle donne des instructions précises, même s'il hurle, il faut que le personnel ne doit pas lui ouvrir la porte. Bon, ça va le traumatiser. Finalement, il sera déposé dans un petit village d'Alabama où il va se lier avec la future Harper Lee, l'auteur de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, qui va l'accompagner dans le Kansas au moment de l'enquête de Sang-Froid. Et puis finalement, sa mère l'amènera à New York où il va vivre avec elle pendant qu'elle prend des médicaments et qu'elle sombre dans l'alcoolisme, en fait, tout en essayant d'écrire. Il rentre au New Yorker, il commence à publier des premières nouvelles dans la presse, et puis c'est en 48 à 23 ans qu'il publie son premier roman, qui est un succès fulgurant, Les Domaines Hantés. Il en publie d'autres, le plus connu étant pour nous Petit Déjeuner chez Tiffany. Il se lie au début des années 50 avec les fameuses, celles qu'il appellera les cygnes, c'est-à-dire la haute société américaine, les femmes de la haute société américaine, dont la sœur de Jackie Kennedy, Lee Radziwill. Et puis finalement, arrive le jour où il ouvre le New York Times en novembre 59 et il lit ce petit article sur un riche exploitant agricole, sa femme et leurs deux jeunes enfants découverts assassinés dans leur maison, qui va lui donner ou non d'ailleurs, parce que là aussi il y a plusieurs versions. Il y a deux versions qui dont Leila Guerriero rend compte. Soit c'est lui qui a l'idée de proposer au New Yorker un reportage sur la ville, soit c'est le directeur du New York Times, Shawn, qui lui propose soit un reportage sur une femme de ménage, soit d'aller dans le Kansas. Et c'est son ami, c'est une amie à lui qui lui dit...
C'est Slim Kiss. C'est celle qui a inspiré justement Petit Déjeuner chez Tiffany. C'est la vraie Oligolite. Voilà. Et c'est elle qui lui dit, fais le plus simple, va dans le Kansas.
Voilà.
Mais ce qui est amusant, c'est que la femme de ménage, il va le faire plus tard. Il va le faire pour interview de Warhol dans les années, au moment où il est déchu, à la fin des années 70. C'est un article remarquable où il suit sa femme de ménage chez des gens qu'il ne connaît pas et qu'elle n'a jamais vu non plus, parce qu'elle prend les clés chez les concierges. Et donc, il visite, il fume de la marijuana avec sa femme de ménage. Et c'est un des plus beaux textes de Capote. Donc, c'est drôle de penser. Oui, c'est drôle de penser. Alors, c'était peut-être déjà un texte assez ancien. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est du retapage. Mais en tout cas, c'est un texte formidable. Donc, les deux, que ce soit De sang-froid ou La femme de ménage, finalement, sont deux parmi les... Il y en a un qui est très célèbre et l'autre qui est, à mon avis, formidable au point de vue littéraire.
Alors, De sang-froid, on va rentrer dans les détails tout à l'heure, mais Philippe Lançon, dans Libération, dit que ce sont les noces techniques du journalisme et de la littérature. C'est pas faux. En même temps, c'est pas complètement lui qui l'invente. Il lui-même reconnaîtra qu'il y a des précédents, comme il parle de Lillian Ross, c'est ça ?
Il parle, alors c'est une interview qu'il a donnée au New York Times, juste à la moment de la sortie de De sang-froid, une interview extrêmement honnête, pas du tout ce qu'on imagine de Capote, qu'on voit toujours comme un personnage un peu méphitique, et où il parle des gens qui l'ont inspiré, comme Rebecca West, comme Joseph Mitchell et comme Lillian Ross. Alors Joseph Mitchell, ce qui est intéressant, Lillian Ross a été une femme qu'on n'a pas traduite en France, qui a écrit un livre qui s'appelle aidez-moi, Image, je crois. Picture, oui. Oui, voilà, qui est sur un film qui est en fait un roman vérité sur le tournage d'un film de John Huston et La charge de la brigade légère qu'il a tourné juste avant African Queen. Et c'est un roman vérité sur les rapports d'un très intéressant, d'après ce que j'ai cru voir, mais je l'ai pas lu, sur les rapports de Huston, des producteurs, des acteurs. C'était Audie Murphy, je crois. Et donc c'est déjà le premier. Et il le cite dans cet article du New York Times, donc on peut pas dire qu'il efface les traces de ce qu'on... Parce qu'on l'a accusé de ça, on a dit Capote s'attribue l'invention du roman. Mais c'est pas lui qui s'est attribué, c'est tout simplement la presse qui, comme souvent, est pas allée chercher très loin et a célébré l'invention.
Il a théorisé un petit peu.
Voilà, aussi, alors d'abord, il y a quelque chose sur l'appellation. Simon Liberati, vous parlez de roman vérité. Vous, Delphine Valentin, votre traduction du livre de Leila Guerriero, vous employez le terme roman document.
Oui, c'est un terme qui, en fait, c'était issu de traductions, des entretiens, donc des traductions françaises qui ont paru dans les années 80, des entretiens de Truman Capote. Et c'est vrai que j'avais jamais vu roman document avant. C'est une fidélité à la traduction à cette époque-là.
C'est plus juste.
En espagnol, on dit periodismo narrativo, donc le journaliste narratif. Le travail que fait Leila Guerriero, elle le définit comme ça. Et pour revenir sur... on va dire ce qui a pu être fait avant, qui était déjà de cet art-là. Il y a un auteur argentin justement très important qui s'appelle Rodolfo Walsh, qui a écrit Opération Massacre et qui est vraiment... il a écrit en 57 sur des événements pendant la dictature. Alors lui, il l'a payé très cher aussi puisqu'il l'a payé de sa vie, mais c'était un auteur de romans policiers, entre autres, de nouvelles. Et pour écrire sur la dictature, sur cet événement précis de la dictature, il a utilisé les éléments de la littérature pour écrire du journalisme. Et c'est un des textes très importants, je crois, de cet art-là.
Alors, il y avait Gide aussi, hein. Gide en
Gide,
France.
Gide, bien sûr.
Oui.
Et
Max-Paul Pouchet, je crois que c'était en 66 quand le livre sort en France, ou 67, a tout de suite cité Gide en disant, mais comment l'inventeur du roman vérité, document, c'est Gide.
Alors, il y a Truman Capote parle, lui, de non-fiction novel, qui me semble l'expression la plus suggestive, parce que le roman non-fictionnel, ça dit quelque chose d'une démarche littéraire. Et le critique Alfred Kazin, qui était très célèbre à l'époque, dont la sœur était une amie de Capote d'ailleurs, parle de l'imagination des faits. Et c'est très suggestif aussi. Philippe Lançon lui parle de cette manière d'éveiller l'inconscient et l'imagination par le récit minutieux et approfondi d'un événement. Alors, il va y avoir beaucoup d'héritiers de ça. Il va y avoir le nouveau journalisme, on va en dire une chose. On va en dire deux mots tout de suite. Mais il y aura, vous parliez de Alexievitch, effectivement. Mmh. La supplication, la fin de l'homme rouge, la guerre n'a pas un visage de femme. Danilo Kish, pour être considéré, l'écrivain yougoslave, peut être considéré comme un héritier de ça aussi. Le livre des rois et des sceaux, un tombeau pour Boris Davidovitch. Une bonne part de la littérature, de ce qu'on a appelé la littérature concentrationnaire, pour être rattaché à ça par la bande, en quelque sorte. Truman Capote, lui, parle de non-fiction novel ou de journalisme créatif. Et il écrit, elle le cite, Leila Guerriero, « Quand j'ai d'abord élaboré ma théorie sur le roman-document, j'emploie le terme qui est dans le livre, beaucoup de ceux avec qui j'ai discuté du problème ont témoigné leur hostilité. » Ils avaient le sentiment que ce que je proposais, une forme de narration utilisant toutes les techniques de l'art fictionnel mais restant pourtant purement factuel, n'était guère plus qu'un artifice littéraire pour romancier fatigué. Et en fait, la forme du reportage créatif exige que l'auteur maîtrise absolument les techniques de la fiction. Ce qui signifie que pour être un bon reporter créatif, il faut être d'abord un excellent écrivain de fiction. Ça, c'est lui qui parle. Et donc, il va y avoir tout un débat très vite entre sa démarche à lui et ce qui va venir tout de suite après, dès l'année suivante, Norman Mailer et l'année suivante encore John Didion, qui vont d'une certaine manière reprendre la technique, mais en faisant le contraire. C'est-à-dire que là où Truman Capote prétend s'abstraire complètement, du moins officiellement, il ne dit jamais « je » dans De sang-froid, Norman Mailer comme John Didion vont privilégier le narrateur ou la narratrice et se faire d'eux-mêmes le lieu d'expérience journalistique ou littéraire.
Alors, je nuancerais ce que vous dites, Marc, parce que je crois que le livre, finalement, qui ressemble le plus à De sang-froid, c'est Le Chant du bourreau, qui a été écrit par Norman Mailer
79.
Une quinzaine d'années après, vous avez raison, 79, qui est un livre qui a eu un succès phénoménal, qui a beaucoup énervé Capote, qui a dit qu'il l'avait complètement piqué. C'est un livre très intéressant que je ne saurais trop recommander aux lecteurs, parce que Mailer peut agacer justement par son omniprésence un peu lourde. Et dans Le Chant du bourreau, il a vraiment essayé de, comme il a admiré, je pense, et jalousé le livre de Capote, il a vraiment essayé de rentrer plus profond dans la psyché du tueur, et c'est un livre extraordinaire, Le Chant du bourreau. Donc ça a aussi donné envie à des rivaux de faire des choses meilleures,
c'est eux qui ont eu les lauriers finalement, et c'est Mailer qui a eu en effet le Pulitzer.
Ben, juste
alors,
au titre,
il a eu le Pulitzer, pour Les armées de la nuit, ce qui est un détail important, ce qui a rendu Capote furieux en disant, et Capote a dit il m'a pillé, en plus il n'a pas aimé De sang-froid, il a dit publiquement que c'était stupide, et il m'a pillé pour faire la même chose. En réalité, Mailer fait le contraire dans Les armées de la nuit, il se met en scène. Mais la question qui se pose, c'est la question de la subjectivité. C'est lié à la question du vrai et du faux. En théorie, Truman Capote ne raconte que la vérité. Dans quelle mesure est-ce que c'est exact?
Alors, Leila Guerriero, j'en avais pas idée, c'est en la lisant que je trouve ça très frappant. Elle parle des dernières pages de sang-froid qui, a priori, seraient les celles vraiment inventées. C'est-à-dire qu'au lieu de s'arrêter au moment où les deux criminels sont exécutés, il a rajouté une scène que je ne vais pas raconter, mais il a rajouté une scène qui est de la pure fiction. Donc là, il y a un petit. Il a pas réussi à s'arrêter juste sur le réel. Il a dû rajouter quelque chose qu'il trouvait que c'était trop dur de s'arrêter sur la description des pieds d'un pendu. Par ailleurs, on sait qu'il a jamais enregistré. Il avait pas
de magnétophone.
Il n'enregistrait rien. Donc ce sont des centaines de pages de notes et surtout sa mémoire. Il disait qu'il avait tout en mémoire et Harper Lee.
Et qu'il oublie parfois de citer. Enfin, il la cite comme l'ayant accompagné, mais en fait Harper Lee avait une très bonne mémoire aussi. Et donc il comparait leur dissertation quand il rentrait à l'hôtel le soir entre les interviews des uns et des autres. Et je pense qu'Harper Lee a été très importante dans la. D'ailleurs, les Perry Smith et Dick Hickok, c'est ça, il s'appelle, ont insisté insisté pour que non seulement Capote, c'était vraiment le baiser du serpent, mais ils ont insisté pour que Capote assiste à leur exécution. Capote n'avait pas envie d'y aller, et on peut comprendre pourquoi, parce que quand on lit la description de l'exécution, c'est une horreur. Et il l'a très 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 mal vécu. Je pense que ça l'a totalement traumatisé pendant des années.
On va revenir à ça.
Et ils avaient invité aussi Harper Lee. Harper Lee a eu la prudence, la finesse, ou la lâcheté, ou je ne sais quoi, de ne pas venir. Et donc il est allé tout seul et sans Harper pour l'exécution.
Down and find the pieces we all left behind. Let us trade a tale of wrong and good, gone bad. Gold will shine in the sun, nothing but metal in the dark. Let us make a deal, double or nothing, double or nothing. Cold-blooded in the blaze of the sun, set the lizards free.
Alors, de sang-froid, Truman Capote. Je voudrais revenir une seconde sur le contexte historique qui préside à l'invention du genre d'une non-fiction novel. Il y a quelque chose aux États-Unis qui est en train de se passer à ce moment-là. Plusieurs écrivains se posent les mêmes questions au tournant des années 60. Dans une conférence, par exemple, Philip Roth, d'une conférence de 61, écrit que après avoir lui aussi décrit un fait divers dans sa conférence, il conclut en disant: pour comprendre, décrire et rendre crédible la réalité américaine, la surabondance de la manière défie les pauvres ressources de l'imagination. La réalité dépasse sans cesse notre talent, et la société produit tous les jours des personnages à rendre jaloux n'importe quel romancier. Qui, par exemple, aurait pu inventer Roy Cohn, et à propos de Nixon, qui vient de perdre les élections, sur l'écran mon esprit refusait de croire à la réalité de cet homme public, de ce fait politique. Ils anticipent une évolution de l'Amérique qui est en train de se dessiner. Baldwin dit la même chose en 63. La question d'être un artiste américain et par-dessus le marché un artiste noir américain dans ce pays si singulier commence à devenir une tâche terrifiante. On est constamment amené à traiter avec les gens les plus incultes qui soient, incultes et analphabètes, extrêmement étranges et difficiles à décrire. Et même Capote, dès 59, écrit quelque chose non pas à propos de Kansas, mais à propos des signes, les femmes de la haute société qui fréquentent, en disant: en présence de l'extrême beauté, tout comme en présence de l'extrême intelligence, la terreur fait partie de notre réaction globale. Et c'est autant l'effroi que l'admiration qui fugacement nous assassine d'un coup de poignard glacé quand un signe s'offre à notre vue. Donc il y a quelque chose, on a l'impression que les écrivains de cette époque, ou les écrivains américains, sont confrontés à une espèce d'inconnu terrifiant, qui est un visage de l'Amérique qu'ils ne connaissent pas. Et c'est ce que dira Capote à propos du Kansas. Il y a deux Amériques. Il y a l'Amérique qu'on connaît, familière. Il y a une Amérique qui nous est complètement inconnue. Et la question qui se pose, Leila Guerriero dit quelque part dans son livre que le quadruple meurtre du Kansas n'est pas le premier meurtre choquant de l'histoire américaine, loin de là, mais c'est le premier meurtre sur lequel Truman Capote a écrit, et donc c'est-à-dire qu'il écrit lui-même l'histoire de cette terreur, qu'il l'a fait advenir en quelque sorte, de cette terreur étrange, en écrivant dessus. Il y a quelque chose de l'invention de quelque chose qu'on est en train d'observer.
On va observer encore plus au moment de l'assassinat de Sharon Tate, etc. Donc c'est vraiment quelque chose ce roman sanglant est pas prophétique, mais annonce annonce une vision de la réalité meurtrière très évidente qui va être centrale, parce que jusque-là il y avait des romans policiers, il y avait des choses qui étaient des histoires de gangsters. Le gangster était très présent dans les années 30, il y avait toute une littérature autour de ça, mais le crime gratuit, c'est là que ça commence, parce qu'on n'a jamais trop compris pourquoi. On sait, ils voulaient voler de l'argent, on leur avait dit en prison qu'ils avaient un trésor, les Clutter, mais enfin, il y a quand même le moment où le crime se fait. A priori, ils voulaient les attacher, et c'est Perry Smith, le brun, le petit, celui dont Capote était amoureux, qui a tué, en fait. Enfin, c'est en tout cas la thèse de Capote, et ça, sans raison. C'est-à-dire, et c'est ce que lui reproche Mailer, d'ailleurs, quand au moment où il va écrire Le Chant du Brou, il dit qu'il n'est pas rentré assez à l'intérieur. Il partait du principe un peu global qu'il y avait des gens qui, par génétique, étaient amenés à commettre des crimes. Mais il n'a pas assez compris le moment, et je pense que c'est parce que Perry Smith ne lui a pas livré non plus, parce que Perry Smith, modèle du livre, donc le tueur, ne regarde Capote venir, il veut lui devenir artiste, Perry Smith, et il voit qu'on veut lui prendre quelque chose, et il donne pas tout, et les deux jouent avec lui comme ça.
Mais c'est peut-être ça qui est...
Delphine Valentin.
C'est peut-être ça qui est... qu'au contraire, Capote a bien compris, c'est l'intime, plutôt que la grande histoire de l'Amérique, ou ce qui se joue à ce moment-là aux États-Unis. C'est... J'ai l'impression, moi, qu'il rentre plus dans l'intime, il reconnaît quelque chose de lui. Dans Perry, et il explique quand même, enfin, l'air de rien, on voit quand même bien qu'il y a une différence entre les deux meurtriers aussi. Il y en a un qui a l'air effectivement génétiquement fait pour tuer, et l'autre qui serait peut-être plus un enfant blessé.
Il y en a un qui se souvient surtout, c'est-à-dire que Dick a une mémoire extraordinaire. Il en parle, Capote, il lui dit voilà, on était à tel motel tel jour, il y avait tel tableau sur le mur, etc. Alors que Perry, lui, a une mémoire du ressenti, il a une mémoire des émotions, l'autre a une mémoire des faits. Donc ça, c'est très intéressant pour lui. Il recoupe les deux témoignages, mais finalement, au fond, La décision de tuer, on n'a jamais su réellement qui l'avait prise.
Et c'est ça, on rentre dans une série d'événements dont on ne comprend pas les motivations, dont on ne sait pas ce qui se passe. Dans le livre de Guerriero, elle rappelle que c'est en écrivant de sang-froid que Truman Capote apprend la mort de Marilyn Monroe, avec qui il était ami. On ne sait pas, on n'a jamais su pourquoi elle était morte. Un an plus tard, il y a l'assassinat de Kennedy. Personne n'a jamais été capable d'expliquer les motivations exactes de Lee Harvey Oswald. Et c'est cette espèce d'épaisseur comme ça, cette opacité qu'on voit tous les jours aujourd'hui, alors pour le coup, et plus seulement aux États-Unis, même si les États-Unis sont largement en avance. Et de sang-froid, quelque part, pointe ça, d'une certaine manière, pour la première fois. Et en même temps, il l'invente, parce qu'il l'observe tout en l'inventant. Il y a dans le documentaire auquel vous avez participé, Simon Liberati, on voit à un moment donné les photos de Richard Avedon, qui est appelé dans la prison par le New Yorker pour photographier les deux meurtriers. Mais là, on n'est déjà plus exactement dans l'observation de la réalité. On est dans le retravail presque. C'est Richard Avedon, donc il y a une starisation. Et on le voit d'ailleurs dans le regard de Perry, en particulier quand il se fait prendre en photo. Il y a incontestablement un plaisir à se faire prendre en photo, même si c'est pas exactement qui avait donné.
Oui, il y a un plaisir, mais de toute façon Perry était tout sauf naïf. Il était, je crois, un peu plus jeune que Capote. Il devait être de 28, donc il y a un rapport entre eux très. C'est celui qui s'est refusé au début. Il a refusé de témoigner. Dick était plus liant, plus commercial, comme ça, il était prêt à parler de tout. Perry non. Et puis Perry s'est beaucoup méfié de Capote, et puis finalement Capote a réussi à le séduire à tous les sens du terme, et donc du coup il y a une relation qui se passe, et je pense que cette histoire de journalisme vérité, de roman document, c'est quelque chose qui non seulement va avoir en effet des conséquences sur la littérature française, américaine, etc., mais aussi des conséquences fondamentales sur l'auteur lui-même, parce que il rentre dans ce rapport à l'autre qui fait qu'il va utiliser finalement ce que lui dit Perry pour faire le livre, et c'est ce qu'il va faire. Il va essayer de faire ensuite, quand il va vouloir faire son À la recherche du temps perdu avec prières exaucées, c'est-à-dire qu'il va utiliser ses modèles, les signes, qui ne sont pas uniquement des mondaines, qui sont des femmes, des aventurières en fait, qui ont épousé des hommes riches, mais c'est des filles qui viennent, donc il se sent comme elles, hein, il se sent en ascension, comme ça. Il aime ça chez elle, ce côté pas prostitué, mais disons des femmes galantes, quand même. Et donc, il va essayer d'utiliser ce matériel, mais il pourra pas l'utiliser. Il le dit déjà dans l'interview du Time. Il dit, j'ai beaucoup de mal avec les portraits. C'est très difficile de faire le portrait de quelqu'un parce que plus il est ressemblant, plus il vous en veut. Et Perry lui en voudra. Et quand Perry est dit, parce qu'il l'aura caché, il avait honte, il l'aura caché qu'il avait déjà fini le roman et qu'il faisait des lectures et qu'il attendait plus que leur exécution.
Juste qu'il soit exécuté.
Alors, c'est ambigu parce qu'ils ont vraiment essayé de le harceler pour qu'il intervienne. Et comme tous les gens un peu simples, ils pensaient que Capote avait le bras long et qu'il pouvait éviter leur exécution. Le pauvre Capote pouvait pas faire grand chose. Donc, il filtrait au maximum les appels.
En même temps, il a fait quand même pas mal. Hein.
Il a fait beaucoup.
Il aura trouvé un avocat.
Ouais. Il les a soutenus, même dans les lettres, on le voit.
Il les a soutenus. Et donc, Leila Guerriero dit quelque chose d'assez brillant sur le sujet. Hein. Elle dit, l'hygiène d'une interview journalistique est discutable. On ne peut appliquer une formule lubrifiante sur le préservatif de mots comme éthique. Dans toute relation, il y a sous-jacent un certain degré de manipulation. Comme Truman Capote n'enregistrait pas ses conversations, il n'y a aucun moyen de savoir jusqu'où il a poussé cette manipulation. Effectivement, mais on peut même dire que c'est une manipulation qui va dans les deux sens, parce que Perry a quand même réussi à obtenir de Capote qu'il assiste à l'exécution, ce qu'il ne voulait pas faire. Donc il y a quelque chose de... Là, Capote se laisse emporter non seulement par son sujet, mais par ses modèles, en fait.
J'ai l'impression que pour revenir à La Côte Basque, la nouvelle qu'il va publier, où il descend, en fait, il livre des tas de secrets, de faits.
Oui.
J'ai l'impression que c'est comme s'il avait perdu un peu sa capacité à savoir ce qu'on fait du réel. Parce que là, il balance le réel, il balance des faits précis dans un journal, et il se tire une balle dans le pied.
Je serais plus nuancé que vous sur la question. Je voulais juste parce que je pense que La Côte Basque est un excellent texte, hein, formidable. C'est pas du tout ce qu'on dit, le truc où il balance. Et je ne crois pas. Enfin, je suis pas d'accord. Mais en revanche, sur l'histoire de Perry Smith, ce qui est terrible, c'est que non seulement il l'a forcé à assister à l'exécution, mais il lui a envoyé une lettre. Perry Smith envoyait des lettres, une lettre de 100 pages. Et Perry Smith détestait les romans. Il n'aimait que la poésie, la philosophie, et pas du tout, et le dessin, mais pas les romans. Et donc, il lui cite Thoreau, qui était un de ses modèles, enfin, quelqu'un pour lequel il avait de l'admiration. Et il lui cite, et ça se termine sur cette phrase, et tout à coup, je comprends que la vie est le père et que la mort est la mère. Et c'est le dernier mot de Perry Smith à Truman Capote. Truman Capote qui va être englouti par le souvenir de cette mère morte, alcoolique, et qui va petit à petit s'enfouir de plus en plus dans ce personnage de mondain alcoolique et drogué, et disparaître en fait en tant que personnage de la littérature à l'intérieur de lui-même. Donc ce dernier coup de venin inconscient, certainement, c'est les choses les plus dangereuses qui sont les plus... le tue. Il est pendu, mais il le pique.
Mais ce que raconte Leila Guerriero, c'est que quand Capote est allé finalement assister à l'exécution, au moment de se faire exécuter, Perry lui aurait dit au revoir, je t'aime et je t'ai toujours aimé, ce qui est une autre manière, ce qui est tout aussi venimeux. Hein,
il y a d'autres interviews où il dit qu'il lui a juste dit adios amigo.
Oui, donc on ne peut pas savoir.
La prochaine.
Il y a deux choses qu'on sait avec certitude, c'est que, parce qu'elle cite, Leila Guerriero cite les extraits des lettres de Capote, c'est vraiment très intéressant, parce qu'on voit l'évolution de Capote entre 60 et 62 dans ses lettres, où il commence par expliquer. D'abord, au début, il parle de son livre comme d'un livre sur le Kansas. C'est encore un livre dont il pense qu'il maîtrise les choses, parce que c'est sur le Kansas et pas sur le meurtre lui-même, pas sur les meurtriers. Et petit à petit, on le sent qu'il perd pied. Ça commence par le livre avance bien, et puis finalement, à la fin de l'année 60, c'est l'obligation de vivre jour après jour sous la dépendance de ce matériau, de cette force me terrifie vraiment, elle me dévore. Puis après, c'est jamais plus je ne m'essaierai au reportage. Si celui-ci est réussi, j'aurai prouvé tout ce que je voulais prouver. À quel prix est-ce que j'écris? En 61, c'est mon problème, au point où j'en suis arrivé. Voilà, ça va être le grand dilemme qui sera le sujet du très bon film, d'ailleurs, Truman Capote de Bennett Miller, sorti en 2005 avec Philip Seymour Hoffman, le grand dilemme de morale qui va être j'ai besoin qu'il soit exécuté.
Non mais c'est ça, c'est dans la correspondance, c'est quand même une succession de lettres qui sont dingues. C'est une lettre qu'il écrit à Perry. En lui disant, parce qu'ils en sont au énième appel, et qu'il lui dit, mais non, mais ça va aller, tu sais bien, voilà. Et la lettre d'après, c'est la lettre à son éditeur, il dit, mais j'en peux plus, quand est-ce qu'on les exécute? Donc ça rend fou quand même, il y a de quoi être.
Ouais. Et il est probablement, sincère dans les deux cas,
absolument,
puisque l'autre chose qu'on sait avec certitude, c'est qu'il a payé les deux pierres tombales.
Ah non, mais il a été, et c'est vrai
les avocats.
Ce que vous disiez est vrai sur le fait qu'il a été intervenu, qu'il a beaucoup, mais je crois que les gars, ils étaient insistants. Donc, quand il était chez son éditeur, l'éditeur raconte qu'il y avait Perry et Dick qui appelaient de la prison pour savoir si, donc il en pouvait plus. Je pense qu'il y avait aussi ça. Et donc, le monde qui est cruel a immédiatement pointé, évidemment, le fait que Capote se serait réjoui de la nouvelle que l'exécution allait avoir lieu.
En fait, il a eu un soulagement.
Il aurait dansé à la fin d'un dîner. Il y a des horreurs qui sont racontées. C'est ce qui va rester aussi dans la légende. On va se dire, ce petit homme terrible qui a attendu, qui a manipulé ces deux, alors qu'en fait, la réalité, comme vous le disiez, Marc, est très est ambivalente. C'est-à-dire qu'en effet, il avait envie de finir son livre, ça on peut le comprendre. Et puis aussi, quand même, il avait un attachement très fort à ce garçon, et aux deux d'ailleurs. Il aimait bien l'autre aussi.
Oui, oui, oui. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le conflit sur le nouveau journalisme, entre d'un côté John Didion, Norman Mailer, qui se mettent en scène comme narrateurs, et qui font de même, en fait, le vrai sujet de leur reportage, dans les deux cas, Truman Capote fait profession, et le dit haut et fort, de ne jamais apparaître. En réalité, il est partout présent, non seulement dans le livre, mais aussi dans l'entreprise de l'écrire. Enfin, il est complètement impliqué dans la réalité sur laquelle il écrit, qu'il fabrique à mesure qu'il l'écrit, en réalité. Et après la sortie du livre, il va rester extrêmement présent. C'est pas seulement qu'il va faire la prévente. C'est que il y a une sorte de circulation du récit entre les versions orales que lui-même véhicule et la version écrite du livre.
Oui. Des versions orales dont il donne plusieurs. Il en donne plusieurs.
En plus, il en donne plusieurs.
Vraiment,
dans les interviews, dans les télés,
dans les dîners.
Dans les dîners. Donc le livre, en quelque sorte, c'est pas seulement que le livre lui échappe en réalité. C'est que il prolifère et lui-même aide à la prolifération du livre.
Oui, absolument. Alors, ça rentre dans une dynamique, évidemment, de mégalomanie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un tel succès, alors forcément, ça lui est monté un peu au cerveau. Et il a perdu aussi son compagnon, avec lequel il était à Palamos, justement, qui était ce garçon qui était écrivain comme lui, son nom m'échappe à l'heure actuelle, qui était un garçon qui était très renfermé, qui était son pendant discret, et donc il le perd, il se sépare, il lui achète un appartement à Verbier, avec un scénario qu'il a écrit pendant l'écriture de Sang-Froid, parce que non seulement il écrivait de Sang-Froid, mais il a écrit aussi le scénario
de Jack Clayton, adapté du Tour des Crous.
Et donc, qui prouve qu'il avait quand même une grande distance par rapport à son écriture. Il arrivait quand même à faire beaucoup de choses en même temps, mais il va s'enfermer, il va devenir en effet l'histrion, et puis on va l'interviewer. À chaque fois qu'il va y avoir un crime, on va demander à Capote qu'est-ce qu'il en pense. Il va devenir une sorte d'expert, comme on dit aujourd'hui, une sorte de criminologue de serial killer, où il se trompe à chaque fois, il annonce des choses complètement fausses. On veut le faire venir sur le procès d'un tueur d'enfants épouvantable qui s'appelle le vendeur de sucettes, si ma mémoire est bonne en anglais. Il est horrifié à force d'être toujours noyé dans ce... Donc le roman, évidemment, le vampirise complètement et le tue. Mais je crois que le rapport avec Perry est très central dans cet effondrement.
Et alors, l'une des questions que pose le bouquin et que pose toute la démarche, et pas seulement la sienne, c'est le rapport entre l'art et la culture. L'Amérique qui explose au tournant des années 60, c'est aussi le moment de la grande explosion. Enfin, ça préfigure la grande explosion culturelle. Les médias prennent le contrôle de la vie publique. Le cinéma, la télévision se lancent à ce moment-là, et les écrivains qui se lancent dans le journalisme créatif ou dans le journalisme ou dans le non-fiction novel ou dans le nouveau journalisme, d'une certaine manière, essayent de répondre à la culture par une démarche artistique. Il y a une citation de Capote qui est dans le livre de Leila Guerriero où il parle de ça. C'est dans sa préface à Musique pour Caméléon qui est citée. Je trouvais ça très amusant au début. Ça cessa de l'être lorsque je compris la différence entre ce qui était bien ou mal écrit et fis ensuite une découverte encore plus alarmante. La différence entre ce qui était très bien écrit et l'art véritable. Une nuance subtile mais impitoyable.
Mais là, en plus, je pense que dans cette ligne-là, il parle de lui.
Il parle de lui, de absolument.
Et c'est en fait, il a même relu de sang-froid, et il a trouvé que c'était pas...
Il a arraché les pages de ses livres. Il lisait tous ses livres, il a arraché les pages,
il restait deux pages. Il faut dire que c'était un très grand styliste. Et ses romans avant de sang-froid, c'est vraiment très beau. Et il n'a pas réussi, finalement, à revenir à la fiction après de sang-froid, très peu.
Mais j'ai l'impression que c'est général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, le problème du roman, en parlant du roman aujourd'hui, c'est que la fiction, c'est comme les gens qui vous racontent leurs rêves, on a l'impression que le lecteur n'a plus la même sensibilité à l'égard de quelque chose dont il sait que c'est inventé par l'auteur. Donc je pense que c'est ce phénomène latent à l'époque et qui a éclaté, c'est comme l'invention de la photographie par rapport à la peinture, hein, pour être un peu bête, ça a coupé beaucoup de choses.
Oui, d'où cette émission, parce que je pense que c'est un sujet vraiment très actuel. Gonna comb out my hair in this telephone booth. Gonna comb out love, gonna comb out hate. Gonna get me a new look, and I can't wait. I took a lethal dosage of dope in my youth. Bit the hook of cheese, it's all the terrible truth. I swallowed it hard for a damn good while, but now I'm combing my hair in a brand new style. Market light, passing the rows of candy for sale. See the pale pretty girls in the magazines, smiling me like they know what I mean. You take your candy and dandy, your cheap girls ruthless. Soul suckers all gonna end up toothless. Coming the truth, life's discount out. Me, I'm combing my hair in a brand new style. Voilà, merci à tous les deux. Merci Delphine Valentin. Merci Simon Liberati. Je rappelle les titres des livres. Les démons et la hyène du Capitole qui est sorti au début de l'année dernière. Et Leila Guerriero, le fantôme de Truman Capote chez Rivage. Et Truman Capote, 4 meurtres et un bal en noir et blanc, correspondance, toujours chez Rivage. Je rappelle aussi le titre du documentaire, toujours visible sur Arte, 6 morts dans la nuit de Frédéric Basse et Julien Gorichon dans lequel vous apparaissez, Simon Liberati. Et également Truman Capote, le film de Bennett Miller en 2005 avec Philip Seymour Hoffman, qui est excellent et qu'il faut voir. Et enfin, on peut aussi regarder éventuellement Feud Capote contre les Singh, Capote vs The Swans, avec Naomi Watts, Diane Lane, et écrit par John Robin Bates et réalisé entre autres par Gus Van Sant. C'est pas terrible, mais il y a un très bon épisode, l'épisode numéro 5, qui est une conversation entière avec James Baldwin et Truman Capote. Rien que pour ça, il faut voir la série.
Si je peux me